Chapitre 43. Le roi obèse.
C'est quoi ce délire ?
Hurla Sabi. Ce n'était pas une illusion. La terre du Mont Chauve tremblait véritablement sous les jambes des 1000 rebelles arc-en-ciel. Un vent de panique traversa le camp des partisans.
Tout va s'effondrer !
Criaient certains.
Nous sommes sur un volcan !
Paniquaient d'autres. Hakan lui-même observait ses deux pieds plantés dans la boue danser malgré lui, comme entraîné par une musique que seul entendait. Rick fut le premier à comprendre. Il bondit sur l'une des tôles posées sur 4 piliers de bambou. La plaque de fer vibra, mais le capitaine blanc contrôla son équilibre.
« À vos pelles! À vos bêches! À vos fourches! Ils vont surgir de partout! Ils nous envoient leurs rataupes! Et depuis 6 mois, ils ont dû se reproduire par milliers !»
Il n'avait pas fini sa phrase qu'une 50aine de taupinières se formèrent dans la terre molle de la colline. Presque aussitôt, de chaque trou sortirent 2 pattes crochues, un museau rose et 2 gigantesques incisives blanches souillées de terre noire. Les 50 premiers rongeurs furent immédiatement abattus, mais dans la seconde suivante, des dizaines d'autres surgissaient de tous côtés. Le mont Chauve ne fut bientôt plus qu'un gigantesque dôme de boue. À coups de pelle et de bêche, les compagnons les repoussaient inlassablement, les assommaient, les tuaient, indifférents aux crocs qui se plantaient dans leurs bottes, leurs jeans, les manches de leurs vestes. Aucune morsure n'était mortelle tant que les rats ne prenaient pas le dessus, mais ils affluaient tel un torrent que les rebelles s'épuisaient à écoper. Hakan, tout en envoyant valser d'un nerveux coup de botte chaque rongeur qui avait l'imprudence de s'approcher, surveillait l'armée impériale au bout de sa longue vue.
« Ils finissent d'installer les catapultes. La tente de commandement est presque montée. Dès qu'ils auront terminé, ils vont tirer. »
Valère ne contesta pas. Un grand soleil brillait au-dessus de leur tête, sans désormais aucun nuage pour les aider. L'historien tenait un couteau à écailler entre ses mains et poignardait le ventre gras des rats qui s'approchaient de Constel.
Ah, si seulement je n'avais pas utilisé les dernières graines de jusquiame noir pendant le massacre de la vallée des teinturiers!
La journaliste, tétanisée, s'accrochait à son stylo et son carnet. Hakan braqua sa longue vue sur le pont des suicidés. Le seul passage pour franchir le lac qui entourait le mont Chauve. Jusqu'à présent, aucun soldat impérial ne s'y était aventuré. Les archers de l'armée arc-en-ciel, malgré les rats, se tenaient prêts. Rick, par de grands moulinets d'épées, décapitait des rongeurs par douzaines.
« Ils ne nous attaqueront qu'après nous avoir bombardés !»
halta le capitaine blanc.
« Leurs boulets vont nous massacrer. Ils lanceront leurs fantassins ensuite pour nous achever !»
« On est fichu si on n'attaque pas les premiers !»
confirma Agnel. Il était monté dans un petit tulipier pour attirer derrière lui le plus de rats possible que Mano, Satcho et les autres gitans tuaient les uns après les autres par des lancers de couteaux précis.
« On doit à tout prix neutraliser leur artillerie !»
ajouta Mano. Sabi s'était approché de lui.
« C'était pas ce qui était prévu avant que ces peluches sans poils viennent réclamer des câlins ?»
Elle jeta le plus loin possible, telle une lanceuse de balles d'autruche, un rat qui s'était accroché à ses longs cheveux.
« Impossible !»
répondit Rick. Il ne cessait de haranguer les résistants pour éviter que la panique ne s'installe dans leur rang.
« On ne peut pas lutter sur 2 fronts à la fois. Et si on tourne le dos à ces bestioles de l'enfer, elles nous emporteront aussi facilement qu'un fleuve en crue. »
Une masse sombre passa soudain au-dessus de leur tête, accompagnée d'un sifflement strident. La seconde suivante, un coup de tonnerre explosa à quelques mètres. Les canons impériaux venaient de tirer un premier boulet. Le projectile de fer rebondit sur une plaque de tôle avant de s'enfoncer dans le sol labouré.
« Aux abris !»
cria Hakan.
« Surveillez le ciel et surveillez la terre sous vos pieds !»
Zizo venait d'entrer dans le laboratoire du palais. L'antre de Galien. Ogénor avait aménagé cette antichambre de l'enfer dans la pièce voisine du vestibule d'honneur, comme s'il avait voulu montrer à ses invités qu'une seule porte séparait le plus beau décor de l'Empire du pire. Les yeux de Zizo ne pouvaient se détacher des instruments terrifiants rangés avec une précision chirurgicale dans la pièce. Alix, Lunella et les autres prisonnières avaient-elles été torturées sur ces lits métalliques d'où pendaient des sangles de cuir? Avait-elle été scarifiée avec ses pinces et ses scalpels? Leur avait-on injecté, à l'aide de ses seringues et de ses aiguilles d'acier, le contenu jaunâtre de ses fioles de verre? Pourtant, malgré ces tortures, aucune des prisonnières, aucun de leurs amis, Liu, Wayne, Osman et les autres, ne les avait trahis. Zizo entendit des bruits de pas, puis une voix.
« Tu n'es pas avec les autres, sur le mont Chauve, en train de te faire massacrer !»
Il sursauta. Galien se tenait face à lui, en blouse blanche, tout sourire, crâne luisant et yeux brillants. « Il va chercher à gagner du temps !» pensa immédiatement Zizo. « Tu ne dois pas lui en laisser !» Il braqua son arbalète cobra.
« Où sont retenues les prisonnières? Tu as une minute pour répondre !»
Zizo avait repéré un trousseau de lourdes clés accroché à un clou à côté de la porte opposée. Les clés des cellules, où Alix et les autres étaient enfermés? Galien répondit distraitement, comme si la présence de Zizo n'avait pas d'importance et sa question pas davantage de sens.
« Tu veux parler des nourricières? Ne t'en fais pas pour elles, elles sont bien traitées. Tu ne peux pas imaginer à quel point Ogénor tient à elles. »
« Ne pas se laisser influencer, » s'exhorta Zizo. Il avança en boitant, renversant un panier de draps ensanglanté, arbalète toujours pointée en direction du savant.
« Je te demande juste où elles sont. Il te reste 50 secondes. »
Galien haussa les épaules, paraissant totalement se désintéresser de l'ultimatum. Il tourna le dos et se dirigea vers la plus grande cage. La plus affreuse créature que Zizo ait jamais croisée y était enfermée. Un rat gigantesque, sans poils, aux yeux noirs presque invisibles sous les plis de son corps obèse. La peau rose du rongeur géant était couverte d'électrodes, reliées par des fils électriques à un terminal informatique.
« Excuse-moi, ce rat a besoin de moi quelques instants. »
Galien analysait les courbes qui montaient et descendaient sur l'écran de l'ordinateur. Indiquait-elle les impulsions du cœur du rongeur, de son cerveau?
« 40 secondes !» annonça Zizo. « Oh, tu peux arrêter ton décompte, stupide !»
fit Galien tout en pianotant avec dextérité sur le clavier.
« Nous savons tous les deux que tu n'oseras pas tirer, du moins pas pour me tuer. C'est d'ailleurs toute la différence entre toi et moi. Entre vous et nous, devrais-je dire. Nous, les SSS, les serviteurs du Troisième Empire. Pour nous, vois-tu, l'objectif compte plus que tout. Plus que la vie, plus que les remords, plus que la mort. C'est pour cela que, contrairement à la plupart des autres savants, j'ai choisi le camp d'Ogénor. Lui, c'est décidé, tranché. Il n'est pas l'otage de sa sensibilité, tout comme Marie-Lune avant lui.
C'est bon? T'as fini? Tu n'as plus que 15 secondes.
Zizo ressentait dans sa cuisse des décharges de douleur presque insoutenables, mais son bras ne tremblait pas. Tendu droit devant lui, la flèche de son arbalète restait braquée sur le front de Galien.
« Après tout, » admit celui-ci en essuyant les gouttes de sueur qui coulaient le long de ses tempes, « je me trompe peut-être. Tu serais bien capable de tirer, par amour, pour retrouver ta reine. Les hommes faibles tels que toi sont incapables de tuer pour sauver l'humanité, mais sont prêts à le faire pour sauver la misérable créature qu'ils aiment. Et on s'étonne ensuite que Marie-Lune ait eu envie de faire le ménage. » Ah, je vais te faire une confidence, Zizo. 5 secondes.
Oh, Génor est fou! Et il s'apprête à commettre un acte encore plus fou, d'une portée que nul ne peut imaginer. Et pour cela, il doit te tuer, ainsi que tous tes copains prisonniers, tous tes rebelles retranchés sur le mont Chauve. Et il doit me tuer, moi, comme tous les autres consuls. Il ne va laisser personne derrière lui. Alors, que tu m'abattes ou pas, ne changera pas grand-chose.
Tu bluffes?
Cette fois, l'arbalète tremblait au bout de son bras.
Tu n'as pas suivi beaucoup de cours d'histoire dans ta vie, Zizo. Tu préférais t'amuser avec un beau. Mais sais-tu comment mouraient les soldats dans le monde ancien, quand ils étaient faits prisonniers et qu'ils ne voulaient pas trahir la cause qu'ils servaient?
Aucune idée. Le décompte était dépassé, la minute était écoulée, et Zizo n'avait pas tiré.
Ils avalaient une capsule de cyanure, un poison violent qu'ils cachaient sur eux, et ils succombaient sur le champ.
Il fouilla dans le revers de sa blouse et en sortit une petite pilule bleue. J'ai fabriqué un truc qui y ressemble. Je ne devrais pas souffrir en l'avalant. Tu ne me laisses pas le choix, puisque tu sembles avoir renoncé à me tuer. Je préfère partir ainsi, plutôt que d'obliger Augénor à me supprimer. Je ne sais pas si tu peux comprendre et je m'en fiche. J'aurais juste fait mon travail pour qu'il puisse construire son nouveau monde. Augénor est le seul homme que j'ai jamais admiré. Un fou, certes, mais surtout un génie visionnaire dont le projet dépasse nos petites vies ordinaires. Un chef. Dans toutes les sociétés parfaites, pour que survive la communauté, il faut des serviteurs anonymes prêts à se sacrifier.
Tu bluffes,
allez répéter Zizo. Il n'en eut pas le temps. Galien avait porté la capsule à sa bouche. Il l'avala. Aussitôt, son corps se raidit. Une écume bleue moussa entre ses lèvres, alors que le médecin portait une main à son cœur, le souffle coupé. Il s'écroula. Zizo se précipita, sur une jambe, auprès du corps allongé. Galien avait déjà cessé de respirer. Yeux révulsés, joues et menton couverts de bave. Le médecin n'avait pas menti. Le regard de Zizo traversa le laboratoire, se posa sur les clés accrochées. Il devait les emporter. Avec le plan du palais en tête, il pourrait ouvrir chaque porte avec ce trousseau, trouver Alix, Lunella, Liu, les libérer, tous ensemble se sauver. Quelqu'un le regardait. Zizo se retourna brusquement. À travers les barreaux de sa cage, le rat taupe nu le fixait. Du moins, il pointait ses yeux aveugles dans sa direction. Entendait-il ses pas? Sentait-il l'odeur du sang sur sa cuisse? Les courbes sur l'écran redoublaient d'intensité. Le rongeur géant avait-il ressenti la mort de son maître? Cherchait-il à se venger? Sur la butte du Mont Chauve, le combat des 1000 partisans arc-en-ciel virait à l'enfer. Une pluie continue de boulets tombait du ciel. Tous les rebelles cherchaient à se réfugier sous les tôles de fer, mais la place manquait. Plus d'une cinquantaine de combattants, touchés par un éclat d'obus, avaient dû être évacués, même si aucun décès n'était encore à déplorer. L'artillerie impériale avait détruit les rares machines de guerre hissées sur la butte. Les boucliers pour archers, les charrettes de paille à enflammer, les échafaudages de bambous destinés à la fabrication d'échelles et de ponts. Des monceaux de cadavres de rats gisaient sur la colline. Chaque nouveau boulet, rebondissant sur le sol, désormais sec, les projetait en l'air en un feu d'artifice de chair, de poils et de crocs. Entre deux boulets, le charnier ressuscitait. Les partisans avaient beau avoir tué plusieurs milliers de rongeurs, d'autres surgissaient toujours de la terre, comme si une seule goutte du sang d'un de leurs frères suffisait à les multiplier. Les nouveaux rataupes nus se faufilaient entre les charognes pour mordre et griffer. Plus aucun combattant ne parvenait à distinguer les morts des vivants. Le choc des boulets de fonte sur les plaques de fer rendait fous certains compagnons. Les rumineurs, les trayeurs, les cueilleurs, habitués au silence de leur prairie, avaient jeté leurs armes et se tenaient la tête entre les mains sans se soucier de se faire dévorer vif. « Restez groupés !» hurlait Rick, mais c'était peine perdue. Des bombes vertes de feu grégeois explosaient régulièrement, enflammant les cadavres et empêchant ainsi momentanément de nouveaux rats de sortir de terre, mais les rongeurs creusaient d'autres tunnels et surgissaient quelques mètres plus loin. « Il faut fuir cette colline !» ordonnait Hakan. Seule une poignée de combattants l'entourait. Sur la rive opposée du lac, des milliers de soldats impériaux se massaient. Abandonner le Mont Chauve, c'était se jeter encore plus sûrement dans la gueule de l'ennemi. Valère ne prononçait plus un mot, serrant Constel dans ses bras pour apaiser sa crise de tétanie.
« Ces sales bêtes ne sont quand même pas immortelles !»
pesta Sabi.
« Elles ne se reproduisent pas grâce à une baguette magique. Ils ont forcément un père, une mère, ils... »
Un boulet rasa le crâne de la Lolly Girl. À quelques centimètres près, il lui arrachait la tête.
« Couche-toi, Sabi !»
ordonna Hakan.
« Couche-toi ?»
Se coucher, c'était se laisser dévorer. Se lever, c'était se faire décapiter. La bataille du Mont Chauve s'achevait avant même d'avoir commencé, dans un massacre effroyable, sans que l'armée impériale ait eu à lever la moindre arme pour triompher. Zizo continuait de fixer le rat taupe nu géant, repassant en boucle dans son crâne les derniers mots de Galien.
Un chef. Dans toutes les sociétés parfaites, pour que survive la communauté, il faut des serviteurs anonymes prêts à se sacrifier.
Pourquoi ce rongeur géant le fascinait-il tant? Il essaya, aussi vite qu'il le put, de se souvenir des explications de Valère, Lio et Lunella. Les savants avaient plusieurs fois essayé de lui exposer le principe de cette société parfaite selon Génor, le socialité, un monde fonctionnant par classe, chaque individu étant affecté à une seule tâche et tout au-dessus, un seul chef, l'unique reproducteur, le père de tous, auquel tout le reste de la communauté est relié. Sur l'écran de l'ordinateur, une succession de décharges électriques indiquait que les battements de cœur et les impulsions du cerveau du rat taupe atteignaient leur maximum. Zizo tenta de se raisonner. Il ne devait pas traîner dans cette pièce à regarder ce gros rat aveugle. Il devait attraper les clés, filer le plus vite possible sur sa seule jambe valide avant qu'un garde n'entre, descendre dans les caves où se trouvaient sûrement les cachots et... Il s'arrêta soudain de visualiser mentalement le plan du sous-sol du palais. Il venait de comprendre. Un commentaire d'Agnel lui était revenu, une phrase que son ami avait prononcée des semaines plus tôt, quand Rick leur avait raconté le massacre de la vallée des teinturiers. Les rats taupes étaient les seuls mammifères à vivre en eusocialité. Ils n'avaient qu'un roi et lui obéissaient, par télépathie. Exactement comme les abeilles et les fourmis. Ce rat obèse dans sa cage était le roi. Galien s'était-il emparé de son cerveau grâce à cet ordinateur et ses électrodes? Le savant pouvait ainsi télécommander à distance une armée entière de rongeurs. Galien avait-il continué de les élever par milliers? Ces décharges électriques signifiaient-elles qu'en ce moment même, les rats taupes se battaient contre les rebelles arc-en-ciel réfugiés sur le Mont Chauve, sans que rien ni personne puisse les arrêter. Sauf... Zizo braqua son arbalète cobra en direction de la cage. Sauf si le roi mourait. La flèche traversa la tête du roi taupe, pile entre ses deux yeux blancs. Le rongeur aveugle tomba sur le côté. Il n'avait pas vu la mort arriver et n'avait sans doute ressenti aucune douleur.
« Vite, maintenant !» pensa Zizo. « Prendre les clés, ne plus penser à la douleur de ma jambe blessée, courir, trouver les prisonniers, les délivrer. »
Sur le mont Chauve, les rats cessèrent immédiatement d'attaquer. Ils tournèrent quelques instants en rond, perdus, affolés, tels des fourmis ne sachant plus où aller, se cognèrent, se reniflèrent, paraissant rechercher entre eux une information, un ordre, une direction dont aucun des rongeurs ne semblait disposer. Ils hésitèrent encore plusieurs secondes, puis, aussi soudainement qu'ils étaient apparus, disparurent dans le sol. Il ne resta plus que les cadavres, des milliers de cadavres puants, sanglants, mais inoffensifs. Rick, Akan, Sabi et tous les autres observèrent, incrédules, le repli inespéré des rats taupes.
Quelqu'un a tué leur roi, assura Agnel. Ils vont désormais errer sous terre aussi déboussolés qu'un corps sans tête.
Les propos d'Agnel furent relayés partout dans l'armée arc-en-ciel, et une immense clameur parcourut les flancs du Mont Chauve. Tout n'était pas perdu. Les boulets et les bombes continuaient de strier le ciel, de frapper les tumulus de rats ou les toits de tôle, mais les compagnons avaient progressivement appris à anticiper leur trajectoire et à les éviter. L'artillerie ennemie continuait de provoquer des dégâts considérables, de déchiqueter la chair des rongeurs, mais ne provoquait plus de victimes humaines. Constel avait repris son carnet et son stylo. Valère avait lâché son couteau.
« Il faut attaquer au centre !» fit l'historien. « Y mettre toutes nos forces pour prendre possession de leur artillerie et de leur tente de commandement, c'est notre seule chance !»
Tous observèrent le champ de bataille, le rocher escarpé sur lequel ils se massaient, le lac rond qui les protégeait, l'arche de pierre du pont des suicidés, unique lien entre les deux rives.
« Et il faut défendre le pont !» conseilla Agnel.
« La première armée qui le franchira aura l'avantage !»
« Et prendre d'assaut le temple de la Sibylle »,
ajouta Hakan. Pour désactiver le moulin sublime tenu par les ombrageurs et occuper le sommet du mont Chauve. La bataille est inévitable. Plus on la dominera de haut, plus on la contrôlera. Rick sauta à nouveau sur un toit de fer au mépris du danger des boulets qui sifflaient.
« Agnel, Mano et tes gitans, prenez autant de compagnons qu'il le faut et défendez le pont. Hakan, prends-toi aussi autant de partisans que tu veux et déloge ces ombrageurs et leurs fauves du temple. Moi, je rassemble notre armée, et aussitôt que chacun aura ramassé son arme, son casque et son bouclier, nous attaquerons !»